Europe 1.
Voici le troisième épisode de notre série dédiée à l'année 1991. Et voilà de quoi on va parler. Du scandale du sang contaminé, de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, du braquage du siècle au pays de Van Gogh, de la fin du vinyle et du film Danse avec les loups qui fait un carton.
1991, on de la raconte sur Europe 1.
Le 25 avril 1991, la France est secouée par un scandale sanitaire d'une ampleur sans équivalent. Dans l'hebdomadaire L'Événement du jeudi, la journaliste Anne-Marie Castoret révèle que le Centre national de transfusion sanguine savait depuis 6 ans qu'une partie des traitements coagulants pour les hémophiles était contaminée par le virus du sida.
Plus grave encore, les médecins du centre décident de laisser ces lots en circulation, affirmant que ce n'est pas à eux de les retirer du marché.
La décision qui a été prise par le centre d'influence en ligne, c'est de ne pas les rapatrier, ni même a posteriori prévenir de quoi que ce soit. Donc ces lots sont restés sur le marché et ont continué de distribuer aux hémophiles jusqu'au moment où le centre a eu suffisamment de produits chauffés, qui étaient donc sûrs, pour les distribuer à tout le monde.
Les conséquences sont catastrophiques. 165 morts, un hémophile sur deux contaminé, près de 2000 personnes concernées, dont des enfants. Le Centre national de transfusion sanguine est piloté par des médecins et son directeur, le docteur Michel Garetta, démissionne un mois après la révélation du scandale. Mais pour le président de l'association des polytransfusés, on est très loin du compte.
C'est une amère victoire, puisque évidemment il y a beaucoup de victimes. Maintenant, on attend les réactions de la justice.
Vous parlez d'une victoire à propos de la démission de M. Garetta. Toute cette affaire se résumait à un seul homme ?
Oh, pas du tout. Il se trouve que c'est le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Donc il était en charge de responsabilité. Mais dans l'affaire des contaminations, il est de loin pas le seul responsable. Il y a un certain nombre de médecins qui ont pris des décisions, la décision de découler des lots contaminés à 100% par le virus du sida. Alors, quand on est médecin et qu'on prend une telle décision, en parfaite connaissance de cause, parce que en mai 85, tout le monde savait tout, l'action se transforme en une action criminelle.
Le lendemain, Jean-Pierre Elkabbach reçoit Bruno Durieux, le ministre de la Santé.
Est-ce que pour vous, Bruno Durieux, c'est vraiment un drame et c'est un vrai scandale ?
C'est un drame. Dire que c'est un scandale, c'est à la justice de qualifier les erreurs d'appréciation qui ont été commises. C'est incontestablement un drame quand on sait ce qu'il en est résulté pour les hémophiles qui ont été transfusés à cette époque-là. Mais moi, je pense à ce drame qui me bouleverse comme tout le monde, mais je pense à un autre drame qui pourrait se produire si nous n'agissions pas rapidement, c'est celui de décourager les donneurs de sang. En France, on a besoin de sang.
Mais qui les décourage ? Qui les décourage ? Ceux qui en parlent ou ceux qui ont commis pendant tant d'années ces erreurs impunément ?
Ils pourraient être découragés par ceux qui parlent de ce problème en l'exagérant, en le passionnant ou en ne faisant pas exactement l'état des choses qui ont été et des faits.
Le gouvernement tente de minimiser le scandale. L'affaire du sang contaminé tourne au scandale politico-financier. Un énorme imbroglio qui va durer plus de 30 ans. Les décisions judiciaires ne vont cesser de tomber, puis d'être cassées. Et au final, l'affaire du sang contaminé accouchera d'une souris. Entre-temps, sur les 2000 hémophiles contaminés par le virus du sida, 800 sont morts. En novembre 1991, le leader du groupe britannique Queen, Freddie Mercury, semble avoir des problèmes de santé. Et il se murmure qu'il aurait le sida, d'autant qu'il n'a jamais caché sa bisexualité. Le 24 novembre 91, dans un communiqué de presse, la star fait une mise au point.
Je souhaite confirmer que je suis séropositif et que j'ai le sida. Pour protéger l'intimité de ceux qui m'entourent, je pensais jusqu'à présent qu'il était correct de ne pas divulguer cette information, Mais le temps est venu d'informer mes amis et mes fans à travers le monde et j'espère que tous se joindront à moi, à mes médecins et à tous ceux qui luttent contre cette maladie redoutable.
Moins de 24 heures après ce communiqué de presse, la terrible nouvelle tombe.
Cette nuit, son attaché de presse a annoncé que le chanteur venait de succomber d'une bronchopneumonie provoquée par le sida. Né à Zanzibar en 1946, Freddie Mercury, de son vrai nom Frédéric Bulsara, avait fondé le groupe Queen en 1971. Devenu mondialement célèbre 4 ans plus tard avec le titre Bohemian Rhapsody, il n'avait plus jamais quitté le devant de la scène. Ouvertement bisexuel, son goût de la provocation et de la fête était devenu légendaire dans le monde du show business. Mais depuis 2 ans, la star qui avait un jour déclaré qu'on peut tout posséder et rester l'homme le plus solitaire du monde, vivait en reclus dans sa somptueuse maison londonienne. C'est là qu'il s'est éteint hier soir, paisiblement. Londres, Esther Lenneman, Europe 1.
C'était le fameux opéra rock Bohemian Rhapsody de Queen, fruit de la sensibilité et des multiples influences de Freddie Mercury.
1991, Ondelat raconte sur Europe 1.
L'enterrement en grande pompe de l'apartheid en Afrique du Sud débute en 1990 par la libération de Nelson Mandela. Mais c'est en 91 que le pays en finit vraiment avec ce régime inique, quand en juin, l'Assemblée nationale sud-africaine abroge la dernière loi de l'apartheid.
Le Population Registration Act était en effet la dernière des 3 lois piliers de l'apartheid encore en vigueur à ce jour. Et avec lui disparaît le fondement même du système de ségrégation raciale en Afrique du Sud. C'est en effet cette loi qui classifiait dès leur naissance tous les Sud-Africains selon la couleur de leur peau. Une classification soumise chaque année à des tests aussi rigoureux qu'irrationnels. Grâce au test du stylo dans les cheveux, s'il tient et que son porteur est noir, on apprenait ainsi que certains Sud-Africains se faisant passer pour blancs avaient, malheureusement pour eux, changé de catégorie.
Dans la foulée, le président sud-africain Frédéric de Klerk se félicite d'avoir mis fin à une violence coloniale qui maintenait les noirs sud-africains dans l'humiliation.
De ce jour, tous les nouveau-nés sud-africains ne porteront plus sur leur carte d'identité le code correspondant à la couleur de leur peau. Les enfants, oui, mais pas encore leurs parents. Tant qu'une nouvelle constitution n'est pas en place, le gouvernement estime ne pas pouvoir laisser les Indiens, les Métis et les Noirs sud-africains voter aux élections partielles prévues dans les mois à venir. Pour eux, la classification raciale reste donc en vigueur avec tout ce que cela représente. De moindres salaires, de plus faibles allocations sociales, des retraites différentes. Et il en est de même des autres lois récemment abolies. La ségrégation résidentielle n'existe plus, mais qui parmi les Noirs sud-africains a les moyens de vivre en zone blanche? Quant à la terre, dont ont été expulsés 3,5 millions de Noirs, ils ne la retrouveront pas systématiquement. Bref, l'apartheid est peut-être mort aujourd'hui dans les lois, mais ses effets n'ont pas disparu et son héritage reste encore à gérer.
Tout cela marque le début d'un gigantesque chantier. Tout est à refaire dans ce pays rongé par plus de 40 ans de ségrégation institutionnelle et 300 ans de racisme quotidien.
À commencer par une nouvelle constitution donnant le droit de vote à tous, ce qui se fera d'ici quelques années, a précisé hier Frédéric de Klerk. Et en attendant, 25 millions de Noirs, 73% de la population, en sont toujours privés. Comme ils sont privés des terres ou des quartiers résidentiels, dont 3,5 millions d'entre eux ont été expulsés. Or, le gouvernement n'a pas les moyens, dit-il, d'offrir réparation à toutes les victimes de l'apartheid, comme il n'a pas les moyens de remettre à niveau les systèmes d'éducation ou de santé entre blancs et noirs.
Sur le plan international, la fin de l'apartheid permet à l'Afrique du Sud de redevenir fréquentable. Et du coup, les capitaux étrangers déboulent. Seule solution pour relever le pays, selon l'ambassadrice française en Afrique du Sud.
Pour construire une société qui, justement, offre les mêmes droits à toutes les races, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent, il faut une croissance économique forte qui permette de financer le rattrapage social nécessaire en matière d'éducation, en matière de logement, dans différents domaines. Et c'est là qu'en effet, le retour d'argent de l'étranger est une condition impérative à la construction de la nouvelle société dont je parlais tout à l'heure.
Et donc, dès l'abolition de l'apartheid, le business reprend ses droits. Hommes d'affaires et industriels du monde entier débarquent en Afrique du Sud. C'est un pays aux ressources prolifiques.
Or, platine, chrome, vanadium, pour tous ces minerais, l'Afrique du Sud est tout simplement le premier producteur mondial, le second pour le manganèse. Et avec encore le rhodium, ce sont autant de minerais indispensables aux industries stratégiques occidentales. La communauté européenne ne s'est d'ailleurs jamais privée de ce commerce. Elle avait préféré faire porter ses sanctions sur d'autres produits plus secondaires, tels que le charbon ou l'acier, dont l'Afrique du Sud dispose également en grande quantité et à des prix compétitifs. Cependant, c'est davantage l'investissement dans le pays lui-même qui intéresse les visiteurs étrangers. D'autant que l'industrie sud-africaine, coupée du monde extérieur pendant plusieurs années, a pris du retard, notamment en matière de technologie de pointe.
Grâce à la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud revient aussi en grâce sur la scène sportive. C'est-à-dire que le pays peut de nouveau participer à des compétitions mondiales, comme la Coupe Davis de tennis, comme la Coupe du monde de football, ou celle de rugby. Albert Ferras, le président de la Fédération française de rugby, est enchanté. Et il est pressé de frotter les Français au redoutable Springboks.
D'abord, je suis ravi que cette décision ait été prise. Il y a 20 ans que nous nous battons pour cela. Ce que je souhaite, c'est que si ça s'ouvre, c'est-à-dire si nous avons, nous, l'autorisation du gouvernement d'éventuellement jouer contre l'Afrique du Sud en rugby, je voudrais que nous soyons les premiers à le faire. Car depuis le temps que nous nous battons pour eux, je crois que nous le méritons. Or, j'étais à Tunis cette semaine. Et déjà, les Russes et les Roumains ont des invitations et sont prêts à partir là-bas. Et je leur ai dit, non, attendez un petit peu. Enfin, ce serait quand même formidable que ce soit les Russes, les Roumains, ou pourquoi pas les Britanniques qui soient les premiers à aller, et nous qui nous sommes battus depuis 20 ans pour les aider, être les derniers.
Le vœu d'Albert Ferras ne sera pas tout à fait exaucé. Car un an plus tard, les All Blacks de Nouvelle-Zélande seront les premiers à affronter les Springboks. Les Français ne les rencontreront que 4 mois plus tard, et ils nous battront. C'était le groupe Scorpion avec Wind of Change.
1991, Ondelat raconte sur Europe 1.
Le samedi 13 avril 1991, au soir, le musée Van Gogh d'Amsterdam s'apprête à fermer ses portes.
On ferme, mesdames et messieurs. Merci de vous diriger vers les portes. On ferme.
Mais le gardien ne remarque pas qu'il reste un visiteur. Un voleur. bien sûr, qui à 4 heures du matin sort de sa cachette et neutralise les deux gardes.
Prenez main tous les deux, vous allez rester tranquille et tout se passera bien. Mais maintenant vous m'écoutez.
Après avoir fait débrancher le système d'alarme, l'homme a enfermé l'un des gardes et contraint l'autre à ouvrir la porte à son complice demeuré à l'extérieur. Pendant 3 quarts d'heure dans le musée, les gangsters ont ensuite rempli 2 grands sacs de voyage d'une 20aine de tableaux aussi prestigieux que les mangeurs de pommes de terre, la chambre de Vincent à Arles ou bien un autoportrait de l'artiste. Montant du butin incalculable, des centaines de millions de dollars.
Et le duo de malfaiteurs sort tranquillement du musée avec une 20aine de toiles de maître sous le bras et il taille la route avec la voiture de l'un des deux gardiens.
Pas de chance pour les touristes, depuis ce matin, le musée Van Gogh d'Amsterdam est fermé. Au cœur de la ville, le sanctuaire qui abrite les œuvres du peintre est en deuil et les gardiens confient à voix basse le malheur qui leur est arrivé. C'est la 4e fois en 3 ans que des vols de Van Gogh sont commis aux Pays-Bas. Et déjà, dans les affaires précédentes, la police avait entouré l'enquête du plus grand secret. Parfois avec succès, dans 2 cas, voleurs et tableaux ont été retrouvés. Grâce à l'aide notamment du public, sollicité à la radio et à la télévision, et appâté par la promesse d'une belle récompense. Les plus grandes toiles volées en lande n'étaient le plus souvent pas assurées. Les toiles de Van Gogh sont les plus chères du monde, les plus célèbres aussi, ce qui les rend presque impossibles à négocier, en Europe du moins. Amsterdam, Antreka, Europe 1.
La rédaction d'Europe 1, naturellement, interroge un policier spécialiste du vol d'œuvres d'art pour savoir qui peut se cacher derrière ce coup.
Mais les malfaiteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ces tableaux ? Est-ce qu'ils peuvent les revendre ?
S'agissant d'œuvres internationales, de réputation internationale, on peut imaginer que là, ils ont travaillé à la commande pour un commanditaire peut-être de l'extrême-orient ou d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, on n'en sait rien. C'est à ce moment-là, sur une autre échelle qu'on va travailler. Et à plus long terme, on va rechercher naturellement à poser des jalons pour que lorsque la négociation va se manifester. C'est évident qu'il y aura un moment où ça va bouger, mais peut-être sur de très longues distances, sur des temps très longs, eh bien, on va arriver peut-être à ce moment-là à trouver la ficelle qui va amener sur les truands.
Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'ils peuvent éventuellement négocier également soit avec le gouvernement, soit avec les assurances pour restituer les tableaux ?
Si c'est un musée d'État, qu'à ce moment-là, on s'adresse effectivement à l'État pour dire, bon, si vous voulez revoir vos tableaux, c'est autant. Ça sera exactement la même chose, d'ailleurs, hein. Les négociations se feront de la même façon.
Le commissaire priseur Maurice Reims ne croit pas qu'il y ait un commanditaire derrière ce vol. Enfin, ses œuvres sont immensément connues. Qui oserait les afficher dans son salon ?
Je ne connais pas. Moi, j'ai jamais eu dans ma longue vie de curieux et une longue vie professionnelle, jamais vu de collection en fait comme ça par quelques nababs, quelques sultans mystérieux, quelques Saddam Hussein qui commanderaient des tableaux. Non. Non.
Ils ne peuvent pas revendre ces tableaux.
Mais non, on ne peut pas les revendre, ces tableaux. C'est pas possible. On peut les revendre à des niais, peut-être, ou à des gens qui n'auraient pas lu les journaux, ni la presse. Mais ça n'ira jamais très loin. Vous comprenez, avant d'acheter un tableau de Van Gogh, on va prendre des précautions. Il ne s'agit pas tout de même d'un tableau de Jean-Gabriel Domergue. C'est un tableau de Van Gogh, ça ne se trouve pas sur les pieds du chameau qui traverse le désert.
Mais alors que la presse disserte et suppute sur les auteurs de ce casse du siècle, la police reste discrète. Et pour cause, elle les a retrouvés, les tableaux, grâce à une intervention ultra rapide, 5 minutes à peine après la fuite des voleurs.
Alerté par l'un des gardiens parvenu à s'échapper par le faux plafond de la pièce où il était enfermé, la police d'Amsterdam arrivera très vite sur les lieux. Trop tard, les voleurs se sont enfuis à bord de la Volkswagen de l'un des gardiens, mais pour peu de temps. Presque aussitôt, la voiture sera retrouvée par les enquêteurs, abandonnée devant une gare à 2 km du musée. Fait incroyable, miraculeux pour le conservateur du musée et inexplicable pour les policiers, les 2 sacs sont là, intacts, avec les 20 tableaux volés, dont 3 seulement sont endommagés, mais réparables. Ce matin, la collection du musée Van Gogh est à nouveau complète. Reste à trouver les bandits, dont on sait seulement qu'ils étaient au moins 2 et parlaient anglais avec l'accent américain.
Les voleurs seront arrêtés 3 mois plus tard. Et on découvrira que le gardien dont les truands ont volé la voiture était en réalité leur complice. Une fois tout le monde interpellé, les policiers hollandais découvrent effarés pourquoi ce casse a capoté. Expliquez-moi pourquoi vous avez laissé la voiture pleine de Van Gogh en pleine rue. Ben, en fait, on attendait notre pote pour qu'il nous ramène dans une autre voiture, mais il venait pas. Alors on a paniqué, on a cru que les flics en civil nous avaient vus, et on s'est barré. Mais votre pote, il faisait quoi? Ben, il avait crevé. Misérable. C'était Saoudade d'Étienne Daou.
1991, Ondelat raconte sur Europe 1.
1991 signe la fin d'une époque. On remet sa platine au grenier. Car en un an, les ventes de disques vinyles chutent de 45%. Le vinyle est en train de se faire damer le pion par le CD, le compact disque. Claude Poitel est responsable disque chez Virgin, aux Champs-Élysées.
Il vous paraît condamné aujourd'hui le 45 tours à moyenne échéance ?
À moyenne échéance, oui, mais j'aime pas trop ce terme condamné. C'est pas condamné, je dirais que ça fait partie de l'évolution. La clientèle grandit, la clientèle mûrit. On n'achète plus un support musical en 1991 comme on pouvait l'acheter en 1975 et comme on pouvait l'acheter en 65. Et puis aujourd'hui, une personne de 14 ans, 13 ans, 15 ans, et même 10 ans, n'a pas dans la tête ce que nous pouvions avoir à cette époque-là.
Pour tenter d'endiguer cette chute, en juin 1991, le syndicat national de l'édition phonographique lance une innovation.
Hé, hey, fiston, sur cette cassette, il y a juste le tube que t'aimes. Ça t'embouche un coin.
Oula. Hé, hey, puis je le connais pas, ce mec.
Cassette de titre, faut l'entendre pour le croire.
L'idée de départ, c'était de remplacer le vieux 45 tours qui, lui, s'essouffle.
Oui, c'était pas tout à fait de remplacer, c'était de venir à côté du 45 tours pour l'aider un petit peu, parce que la chanson, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui, souvent, pour des jeunes artistes, est le seul moyen de se faire connaître. Ils n'ont pas toujours la matière à un album. Et donc la chanson, donc le 45 tours, la cassette de titre ou le CD single, c'est le seul moyen pour eux de débuter vraiment. Donc c'est quelque chose de très important. Et voyant que la baisse du 45 tours s'accentuait sur le marché français, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser les choses comme ça et que donc il fallait proposer au public jeune, qui est le principal acheteur du 45 tours, un nouveau format. Et donc la cassette de titre. Qui se justifie quand on sait que les deux tiers des jeunes ont un baladeur, que c'est quelque chose de la cassette est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs, donc on s'est dit pourquoi pas.
Le prix d'une cassette de titre est plus élevé que celui du 45 tours, 24 francs contre 20 francs. Mais peu importe, les mélomanes apprécient.
La cassette de titre se distingue d'abord par son emballage. Pour ne pas la confondre, on lui a donné un emballage surdimensionné. Elle est vendue dans un carton tout en hauteur. Les acheteurs ont des motivations bien précises.
C'est plus simple, ça permet de... Souvent dans une cassette entière, il y a plein de chansons qu'on n'aime pas. Alors là, ça nous permet d'avoir seulement celles qu'on aime.
Vous en achetez souvent ?
Ça m'arrive, ouais, enfin de temps en temps, mais ça met un peu de temps à démarrer parce que vu que c'est pas encore très connu du grand public... Mais je pense que ça a vite remplacé le 45 tours. Hein.
Vous aussi, je vois que vous avez les bras chargés. Vous avez acheté plusieurs cassettes de titres.
Oui.
C'est un support qui vous plaît.
Oui, j'aime bien, mais je connaissais déjà des États-Unis. Voilà, et j'ai l'habitude d'en acheter, mais en général, en habitude, je les ai achetés là-bas parce que j'en trouvais pas en France avant.
Alors vous êtes ravi que ce produit ait été lancé il y a quelques mois déjà?
Oui, je suis ravie, mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas seulement les titres les plus connus, en fin de compte. Parce que là, on trouve que les titres les plus connus des albums.
C'est pas trop cher?
Non, ça coûte rien, c'est quoi? C'est 24 francs, hein. On a bien 24 francs à claquer, je crois, à mon avis. Non, c'est rien, ça coûte rien.
Et bien sûr, les jeunes sont les premiers séduits par cette nouveauté.
Mais vous avez l'impression, par exemple, que ce nouveau support a fait venir une nouvelle clientèle dans les magasins de disques? Plus jeune?
Oui, beaucoup plus jeune, oui.
Quelles sont les plus fortes ventes en ce moment dans les cassettes de titres?
Eh ben, c'est Michael Jackson.
Le succès de la cassette de titres dépasse toutes les prévisions des professionnels.
On espérait vendre 1 million de cassettes sur l'année, et puis voilà que quelques mois après le lancement, on est déjà à plus de 2 millions. Maintenant, on vise un objectif de l'ordre de 3 millions et demi de cassettes sur l'année, ce qui serait un excellent résultat.
Mais vous connaissez la suite? La cassette de titre, tout comme le CD de titre et le CD tout court, ne survivront pas à l'arrivée d'Internet et des formats MP3. Mais peut-être la cassette reviendra-t-elle à la mode, hein? Après tout, on a bien déterré ce fossile qui était le vinyle.
Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit
MC Solar, viens là que je te donne du réconfort.
J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Ces hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là.
Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là.
Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit
Claude MC, est-ce que tu peux descendre?
J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là.
Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là.
Alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller. Partir, bifurquer, j'ai dû m'évader. J'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir. J'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là, bouge de là.
C'était MC Solar avec son premier tube Bouge de là, qui fut l'une des cassettes de titres les plus vendues de l'année 1991.
1991, On de la raconte sur Europe 1.
Au printemps 1991, au Festival de Cannes, la vedette la plus attendue s'appelle Madonna. Elle n'est plus blonde, elle est brune. Mais tout le monde attend de voir quelle robe elle portera pour la montée des marches.
Elle devrait arriver par bateau et grimper les marches à 23h25. Des centaines de fans sont déjà installés depuis 8h ce matin.
On discute, on s'amuse, c'est bien. On ne va pas passer le temps, pour l'instant ça va.
Je l'imagine super, comme d'habitude, mais c'est un événement parce que c'est la première fois que je vais la voir, quoi. Depuis 8h30 ce matin, on attend, alors jusqu'à 23h30.
Elle a amené des provisions.
À manger, à boire, à lire, écouter de la musique, Madonna.
Dans la foule aussi, des moins jeunes venus par habitude. Madonna, ils ne connaissent pas très bien, mais pourquoi pas?
Mais je sais pas, parce qu'il n'y a qu'elle aujourd'hui qu'on nous a nommé, parce que le reste, c'est des Américains, on nous a dit. Mais c'est des messieurs que je connais pas, des artistes que je connais pas.
Et Madonna, c'est quoi?
Je sais pas exactement. Qu'est-ce qu'elle est, Madonna, Georges?
De toute façon, elle doit être américaine, non? Je suis d'une autre époque et j'ai une entrevue de la femme, disons.
Celle-là, vous la trouvez comment?
Je la trouve sexy, c'est sûr.
En attendant, le grand réalisateur italien Marco Ferreri est un peu agacé par cette effervescence autour de Madonna.
Je la connais pas. Qui c'est?
Vous la connaissez comme artiste?
Non, mais qui c'est?
Madonna. La chanteuse.
Je suis resté à Marita de Plata. Que c'est? Madonna, qui c'est? Je la connais pas. Je pense qu'il vient à casser les couilles au cinéma. Une fille qui fait... Il mange des gâteaux, il mange d'Esquimaux. Après, il y a aussi Trois Noirs, Fantastique, ils dansent. Alors, je m'en fiche de Madonna.
Eh bien, si elle vient casser les pieds au cinéma, c'est parce qu'elle a un film à présenter. Un documentaire. In Bed with Madonna. Au lit avec Madonna.
Je ne dirais pas qu'il y a tromperie sur la marchandise, car le film est superbe, très bien réalisé. On plonge dans les rythmes de la tournée internationale de Madonna l'an dernier, lorsqu'elle était encore blonde. Extrait des concerts de Paris, New York, Milan, Tokyo, etc. Le film est un long clip entrecoupé de scènes fugaces, Madonna dans les coulisses. Et s'il y a tromperie, c'est dans le titre. On ne passe pas 2 heures au lit avec Madonna. Le résultat va enthousiasmer tous les admirateurs de la chanteuse, très portée aussi sur la foi. Elle ne manque jamais une prière avec sa troupe avant de monter sur scène. Un membre de son entourage glisse à un moment qu'elle est en fait une petite fille perdue dans la tempête. Au Festival de Cannes, Michel Grossior, Europe 1.
Cinéma toujours. En 1991, aux Oscars, Hollywood récompense un film inattendu, Danse avec les loups. Un film que son acteur et réalisateur, Kevin Costner, a eu bien du mal pourtant à monter. Les studios ne voulaient pas de son western avec les loups. Mais enfin, Kevin, quelle idée! Ça ne marchera jamais. Mon œil, c'est un carton qui marque toute une génération de gamins et d'adolescents.
Et oui, Danse avec les loups, c'est le film que Hollywood ne voulait pas faire et que Hollywood vient de couronner de 7 Oscars, car le succès va au succès et Hollywood aime les gagneurs comme Kevin Costner, le metteur en scène et l'acteur principal de cette épopée de 3 heures, à la gloire de la nature américaine, les plaines du Middle West, et à la gloire de ses premiers occupants, les Indiens. Danse avec les loups, c'est l'histoire d'un soldat de la cavalerie Yankee, envoyé en garnison au fin fond du Dakota, et qui finit par rejoindre le camp des Sioux contre ses compagnons d'armes. Mais Kevin Costner, c'est l'anti-John Ford, l'anti-western, où les blancs sont toujours les bons et les peaux rouges les méchants. Là, c'est la conquête de l'Ouest vue du côté des perdants.
En France, un autre film marque l'année 1991, une époque formidable de Gérard Jugnot. C'est un film sensible sur un thème qui touche les Français, le chômage. Gérard Jugnot incarne un cadre moyen qui perd son job, mais qui ne dit rien à son entourage et qui est obligé de faire semblant de travailler.
Tout ça, c'est pour vous, signorita.
Saint Laurent ! Aïe ! Les tailleurs !
Attends, attends. Ça, c'est pour manger avec.
Mais t'es fou, Michel, t'es fou. Mais tu sais combien ça coûte, ça ?
Je sais. Mais à partir de maintenant, ça n'a aucune importance. Champagne.
Ah, ici.
Tu t'adresses à un directeur général des ventes. Attention.
Quoi ?
Ça s'est décidé cet été, pendant les vacances.
Et après, la chute est inévitable. Après son boulot, le cadre perd tout, sa maison, sa femme et ses enfants. Il devient SDF, il découvre la rue et une vie faite de combines, mais aussi de solidarité. Et je vous rappelle les noms de ses compagnons d'infortune, Crayon, Mimosa et Toubib.
Dans le civil, j'ai travaillé dans un centre pour les sémiques. Tous les matins, j'en voyais arriver des dizaines. Rien qu'en les regardant, je pouvais te dire ceux qui voulaient s'en sortir. Ça se voit dans les yeux. Et toi, t'es sur le point de renoncer. Tu manques d'audace. Et c'est sûrement pour ça qu'on t'a viré, pas vrai?
Comme dit le Toubib, de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace.
C'est pas moi qui dis ça, c'est Danton.
Toubib est interprété par Richard Bohringer, qui est un écorché vif et qui est un acteur entier et sensible.
Comment est-ce que vous avez approché le monde des sans-domicile fixe, des marginaux un petit peu des...
Ça veut dire que moi, j'ai pas été. Moi, je suis marginal et je tiens à le rester. Hein. D'ailleurs, je suis en pleine période de rébellion parce que j'avais l'impression que je m'endormais un peu, que je me mettais les jantes larges. J'ai connu des difficultés existentielles, des difficultés de vie, mais j'ai jamais été sans domicile fixe. Je veux dire par là que j'avais toujours ma vieille grand-mère qui m'avait élevé. Il y avait toujours, si j'avais voulu, il y aurait toujours eu de la soupe dans l'assiette et puis un lit pour dormir. Mais j'ai vécu l'errance et la quête des autres et de moi-même, très fort. Et puis c'est vrai que je n'ai pas été particulièrement gâté. Mais par rapport à ce que la vie nous fout dans la gueule tous les jours, au spectacle de l'humanité, c'est vrai que moi, j'ai affirmé ma gueule là-dessus, à l'ouvrir en tous les cas pour qu'il y ait des changements. Mais affirmer ma gueule sur ma propre destinée, parce que ça serait un peu indécent.
Arrête de pleurer, ma bleue. Sur la
l'argent qui vaut plus un clou. Arrête de dire que t'es toute seule. Ici c'est chacun pour sa gueule. Arrête de rêver que tu déprimes. C'est vrai que tu débordes ton jean. Autour de toi tout le monde s'en fout. Arrête de pleurer, babelou.
Regarde les riches, ils sont coiffés comme leurs caniches. Regarde les riches, tout leur rôle sur la corniche. Regarde les riches, ils mangent jamais dans leur sandwich. Regarde les riches, l'important c'est tout ce qu'ils affichent. Regarde les riches, ils sont coiffés comme.
On va se quitter avec ce regard des riches de Patricia Cass. À mes côtés aujourd'hui, il y avait Guillaume Vasseau, Guillaume Maury et Julien Pichenet. La suite de notre visite privée de l'année 1991 dans le quatrième épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.